VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisco, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Élection au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a à son tour saisi la justice ce mercredi pour contrecarrer le recours de l'opposition qui réclame l'annulation de la cour de victoire du chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, à la présidentielle du mois dernier. Les représentants de la ZANU-PF ont déposé les documents de cette contre-requête auprès de la Cour constitutionnelle, le tribunal qui étudie déjà le recours du parti d'opposition MDC. Les opposants estiment que les élections du 30 juillet ont été truquées en faveur d'Emmerson Mnangagwa, l'ancien vice-président du leader de longue date du pays, Robert Mugabe. Ils accusent la ZANU-PF et la commission électorale de fraude pour ce premier scrutin au Zimbabwe depuis le départ forcé de l'ex-président Mugabe en novembre dernier. Selon les résultats officiels, Emmerson Mnangagwa a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour Nelson Chamisa, le candidat du MDC. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher après le dépôt du recours de l'opposition le 10 août. Élection au Mali maintenant, les résultats provisoires du second tour de la présidentielle de dimanche sont attendus ce mercredi. Le parti du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a prédit hier la réélection du chef de l'État, avant même l'annonce officielle des résultats, qui sont déjà rejetés à l'avance par le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. L'ONU et l'Union européenne appellent au calme. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Nous attendons avec sérénité les résultats officiels qui vont être communiqués par les autorités compétentes, a déclaré Boukari Treta, directeur de campagne du candidat Ibeka. Il renchérit disant que le président Ibrahim Boubacar Keïta sera réélu de manière large et confortable. La veille, l'opposant Soumaïla Cissé avait appelé les Maliens à se lever face à des résultats qu'il rejetait d'emblée car, selon lui, entachés de fraude. La responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est dans le camp du président de la République, avertit le chef de file de l'opposition malienne. À New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à conserver le calme jusqu'à la conclusion du processus électoral. À Bamako, la mission d'observation de l'Union européenne exhorte les candidats à la retenue dans l'attente des résultats.
Pour plus de détails sur la controverse au sujet des résultats des élections, rejoignons notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après Soumaïla Cissé, c'est son directeur de campagne qui revient à la charge avec des arguments concernant la fraude massive dans les régions nord du Mali. Tcheblen Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Nous rejetons les résultats attribués au président sortant dans plusieurs localités du nord, notamment dans le cercle de Gourma-Raous, où il n'y a pas eu d'opération de vote dans plusieurs communes. L'on a attribué au candidat Ibrahim Boubacar Keïta 30 674 voix et à Soumaïla Cissé 6 000.
Nous demandons aujourd'hui et maintenant, pour des raisons de transparence, la publication des résultats bureau par bureau, les résultats de chaque bureau de vote.
Au siège de la coalition Ensemble pour le Mali, l'on joue à la sérénité. Boukari Treta, directeur de campagne du candidat Ibeka.
L'alliance Ensemble pour le Mali s'insurge contre les allégations de fraude qui sont proférées par certains. L'alliance Ensemble pour le Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse du bulletin de vote qui avait été exhibé par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Un conseiller communal de l'URD est actuellement aux mains de la justice pour répondre de ses actes.
Les Bamakois suivent avec intérêt ces jeux de ping-pong et de contestation des résultats. Cette contestation des résultats pourra connaître son épilogue aujourd'hui avec la proclamation des résultats provisoires au niveau du ministère de l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, toujours au Sénégal, le militant écologiste et ancien ministre de l'Environnement Ali Haïdar a été condamné mardi à 3 mois de prison avec sursis pour diffamation. Un responsable des exploitants forestiers sénégalais avait porté plainte contre lui. Les précisions de Morgane Guiriek.
Ali Haïdar a indiqué qu'il va faire appel de cette décision. Le défenseur de l'environnement doit en outre payer 2 millions de francs CFA d'amende à Abdoulaye Sow, président de l'Union nationale des exploitants forestiers au Sénégal, à l'origine de la plainte. Selon la presse locale, en janvier 2018, Monsieur Haïdar avait cité le président de l'UNEF parmi les trafiquants de bois qui risquent de faire disparaître les forêts de Casamance. La controverse faisait suite au massacre, le 6 janvier, de 14 jeunes dans la forêt de Bayotte, près de Ziguinchor. Pour la justice sénégalaise, ce massacre a été commandité et exécuté par des villageois avec le concours de membres d'une faction de la rébellion. 24 suspects ont déjà été arrêtés et inculpés. Par ailleurs, 4 exploitants forestiers disparus depuis le 5 août sont toujours recherchés par les forces de sécurité en Casamance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, vive réaction après l'annonce du gouvernement sur la mise aux arrêts de 7 militaires impliqués dans les exécutions sommaires de civils dans l'extrême nord du pays. Hommes politiques, responsables des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi des citoyens ordinaires, se disent choqués par les actes que l'on reproche aux militaires en détention. Pour rappel, ceux-ci ont abattu froidement 2 femmes et 2 bébés. Les 2 femmes étaient soupçonnées de soutien aux djihadistes de Boko Haram. Le gouvernement camerounais ayant reconnu les faits, l'opinion réclame des sanctions sévères à divers niveaux de responsabilité dans cette affaire. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Le président de la République ne saurait rester silencieux. Maintenant que le gouvernement a concédé de dire la vérité sur l'affaire d'exécution sommaire de civils dans la région de l'extrême nord, cette position est soutenue par le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Il est du devoir du chef des armées de ne pas être simplement chef des armées quand c'est bien, mais il doit assumer aussi ses responsabilités. Est-ce que le président a été bien informé dans cette affaire? Est-ce que ceux qui sont en charge de la défense, ministre de la défense délégué auprès du président de la République, ont fait leur travail comme il le fallait pour attendre d'abord qu'on traîne le Cameroun dans la boue? Cette image est sans précédent. Même sous le régime nazi, on séparait les enfants des parents.
Pour le Social Démocratique Front, principal parti de l'opposition, le mensonge d'État sur cette affaire est scandaleux. Les têtes doivent tomber par conséquent. Aloïse Parfum-Voum, président du Social Démocratique Front, Yaoundé 4e.
Il y aurait déjà eu beaucoup de démissions. Celle du chargé de la communication de la défense, du ministre de la défense, qui lui-même a même attribué cela à un activiste aux États-Unis, et surtout celle du ministre de la communication, qui n'a pas eu froid aux yeux de venir dire que c'était un fake news et qui aujourd'hui se rebiffe.
Les organismes de défense des droits de l'homme au Cameroun attendent pour leur part suivre de près le procès des 7 militaires mis aux arrêts afin que justice soit rendue. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En RDC, l'épidémie de fièvre hémorragique dans le nord-est du pays a déjà fait plus de 40 morts. Les détails avec Raïssa Girondin.
À la date du 13 août, il y a un total de 41 décès, a déclaré une porte-parole de l'OMS à Genève. Selon le ministère congolais de la Santé, 57 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région de Beni, dont 30 cas confirmés et 27 probables. 7 membres du personnel de santé ont été contaminés et 74 confinés à domicile pour avoir été en contact avec des malades. Ils vont faire l'objet d'un suivi de 21 jours. Une fillette de 13 ans a été déclarée guérie à Beni et 216 personnes ont été vaccinées. Les équipes médicales à Beni et Mangina, l'épicentre de l'épidémie, ont commencé à utiliser pour la première fois la molécule thérapeutique MAP-114. Elle a été administrée à 5 personnes qui réagissent bien, selon le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui revient de Beni. Il a lancé un appel à la cessation des hostilités dans le Nord Kivu, qui abrite de nombreux groupes rebelles.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé le boycott des appareils électroniques américains, poursuivant ainsi l'escalade des tensions avec les États-Unis. Washington et Ankara traverse actuellement une crise diplomatique liée à la détention du pasteur Andrew Brunson, ce qui a conduit les alliés au sein de l'OTAN à s'imposer des sanctions réciproques en août. Et pour terminer, crise migratoire, le navire humanitaire Aquarius est finalement arrivé ce mercredi après-midi dans le port de La Valette à Malte, après un accord pour répartir entre 5 pays de l'Union européenne les 141 migrants africains qu'il avait secouru vendredi dernier dans les eaux internationales au large de la Libye. Le bateau affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a dû attendre plusieurs jours en mer pour cause du refus des États voisins d'accueillir les migrants, sans la promesse d'autres pays de partager ensemble le fardeau.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.